Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir. Ça faisait un certain temps. Je rajoute, je ne devrais pas le dire, mais pour ceux qui s'inquiétaient de ma santé, il y a quelques mois, voire quelques toutes petites années, il semble qu'aujourd'hui tout aille bien. J'ai donné des renseignements médicaux. Le dernier scanner n'a rien découvert de déplaisant dans mon petit ventre. Amen, alléluia. Avant de lire la parole, la Bible, qui va nous servir pour la prédication ce matin, la méditation, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton esprit pour que nous recevions en vérité ta parole de vie. Nous avons tant de mal à nous extirper de nos difficultés quotidiennes. Nous sommes assaillis de tous côtés. Nous voulons maintenant que tu interviennes en nous et pour nous, afin que nous découvrions avec joie et reconnaissance ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Je vais lire deux textes très courts, qui, si j'étais méchant, je vous ferais réciter par cœur, parce que vous les connaissiez depuis longtemps. Le premier, c'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. Je vais lire 16 versets. Matthieu 5, à partir du verset 1. « À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos actions bonnes, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Et le second texte est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, Jean chapitre 17, les versets 15 à 18. C'est Jésus qui parle. « Je ne te demande pas, dit-il à son Père, de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Amen. Lors d'une réunion de prière, il y a plusieurs années, une dame qui était parmi nous priait. Elle disait la chose suivante : Seigneur, donne ta lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. D'un seul coup, je me suis souvenu du texte biblique d'aujourd'hui et j'ai pensé très fortement : Ma sœur, c'est toi qui es la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Alors vas-y, arrête de parler, éclaire. Et dans la seconde qui a suivi, peut-être même moins que ça, une autre pensée m'est rapidement venue donc. Et cette pensée, c'était « Et toi, que fais-tu ? Qui es-tu, toi, pour donner des conseils ? Es-tu lumière ? Es-tu sel dans ce monde ?» Eh bien, frères et sœurs, me voici avec vous devant cette affirmation surprenante. Vous êtes la lumière du monde. Et je vais m'attarder sur les quatre mots de cette courte phrase. Vous êtes lumière et monde. Vous, de qui s'agit-il ? Dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il est clairement question des disciples, c'est-à-dire de personnes qui reçoivent l'enseignement de leur maître. Qui reçoivent l'enseignement de leur maître pour le mettre en pratique. Donc je pense que nous sommes bien ici tous concernés aujourd'hui. De qui s'agit-il ? D'un pluriel, vous, et non d'un singulier. En d'autres termes, je me trompe certainement si j'ai envie de croire que moi tout seul, je suis la lumière ou le sel. C'est de moi certainement qu'il est question, disciples, mais de moi avec d'autres, c'est-à-dire de moi en communauté, en assemblée, en église, utilisez le mot que vous voulez, c'est l'église dont je suis un membre qui est lumière et sel avec d'autres, mais certainement aussi l'église à laquelle j'appartiens avec d'autres églises et d'autres communautés chrétiennes, c'est tout ça qui est lumière ou sel. Vous avez bien compris que si j'aime à insister sur ce petit mot, « vous », c'est parce qu'il me pousse à me joindre à d'autres chrétiens pour que, ensemble, nous soyons lumière et sel de cette partie du monde où nous sommes placés, pour nous ici, vous et moi, dans le département du Gard. De qui s'agit-il encore ? La scène qui nous est rapportée dans cet épisode du Sermon sur la montagne place Jésus au milieu des disciples, mais aussi au milieu d'une foule qui le suit dans ses divers déplacements. Que vient faire la foule dans cet enseignement ? Il y a, me semble-t-il, deux façons de répondre à cette question. On peut d'abord imaginer que, situant son enseignement aux disciples au milieu de la foule, il indique à cette foule, pour qu'elle y prenne garde, pour qu'elle le sache, qu'il transmet quelque chose de son autorité aux disciples, qu'il leur donne publiquement la responsabilité de continuer son enseignement au milieu des foules. Et en même temps, la foule est témoin de cette transmission. Pour les disciples, la déclaration du Christ prend donc encore plus d'importance. La foule est désormais en droit d'attendre quelque chose de ses disciples désignés par leur maître. Dans la scène qui nous occupe, la foule est comme dans un second cercle autour de Jésus, le premier cercle étant celui des disciples. On peut donc aussi penser que le Christ s'adresse directement ou indirectement à la foule en lui disant, en leur disant, « Vous aussi, vous pouvez, vous devez devenir mes disciples. Donc, vous aussi, vous devez devenir sel et lumière du monde. Chaque personne confrontée à l'enseignement du Christ devrait ainsi savoir qu'elle est appelée à devenir un jour ou l'autre disciple, donc celle et lumière du monde. Personne ne serait ainsi figé dans un rôle d'enseigner passif, tout le monde serait ainsi appelé à la responsabilité du disciple. De qui s'agit-il encore ? Clairement, très clairement, de ceux auxquels Jésus s'adresse ici et qui l'écoutent, et pas ceux que d'autres, Bouddha, Mahomet, la scientologie, etc., etc., pourraient désigner. En ces temps de confusion, où le monde oppose brutalement la religion, toutes les religions, à la laïcité considérée comme l'anti-religion, dans ces temps de confusion où nous pouvons nous laisser entraîner à penser que toutes les religions se valent, il n'est pas inutile de le rappeler. Le deuxième mot, c'est ce verbe « être », « être », le verbe « être ». Je souligne tout de suite qu'il n'est pas dit « vous serez ». Il n'est pas dit « vous allez devenir ». Il n'est pas dit « quand vous aurez tout compris, vous pourrez éclairer ». Il n'est pas dit « vous pouvez, si vous le voulez bien ». Il est dit « vous êtes », au présent de l'indicatif. Donc, dès maintenant, la lumière. Vous êtes, dès maintenant, la lumière. Cela signifie, si vous suivez le Christ, si vous êtes ses disciples, allez-y, éclairez, n'attendez pas. Il n'y a ni à hésiter, ni à tergiverser. J'entends cependant nos esprits qui protestent, et j'entends nos prières monter vers le Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas. Nous sommes bien incapables. La tâche est trop grande. Fais-le, toi qui es la lumière. Éclaire ce monde. Nous sommes avec toi. Nous te soutenons. Nous t'en prions. Et me voilà en train de reprendre à mon compte la prière de la dame que je critiquais au tout début de cette prédication et qui disait « Seigneur, donne ta lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. » Non. Si le Christ dit « vous êtes », c'est certainement qu'il attend quelque chose de nous. Nous n'avons pas le droit d'en douter. Non seulement le Christ nous en croit capables, mais il nous donne la possibilité, par son esprit, qui, selon l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 12, transforme nos intelligences afin que nous soyons en mesure de faire ce qui est bon, agréable et parfait, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Nous pouvons. Paul le dit à sa manière dans l'Épître aux Philippiens. J'aime beaucoup la phrase. Il parle des autres. « Les autres s'inquiètent seulement de leurs affaires personnelles, dit-il aux Philippiens, et non de la cause de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la cause de l'Évangile. » Lumière, troisième mot. D'abord, il nous faut prendre ou reprendre conscience que nous sommes dans un monde de ténèbres. Si nous suivons ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde, pas de doute. J'ouvre une parenthèse qui se terminera par des petits points. Guerre, violence de tous ordres, maladies, désertification, famine, familles explosées, addictions, la liste n'est pas close, ténèbres. Mais ce n'est pas si simple. Nous sommes tellement habitués à vivre dans ce monde que nous n'en voyons pas toujours les aspects ténébreux. Il nous faut du discernement. Un discernement nourri par les Écritures et éclairé par la lumière, Jésus le Christ. Ensuite, il nous faut aussi prendre conscience, et ce n'est pas très difficile si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, que nous ne sommes pas toujours aussi illuminés ou lumineux qu'il le faudrait. Disons-le simplement, la lumière du Christ a encore du travail à faire en nous. Il y a encore des coins de ténèbres en nous. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que nous ne voyons pas que le monde est ténèbres. C'est aussi pour cela que nous avons du mal à accepter d'être lumière. Nous savons bien ce que nous sommes en réalité. Nous sommes aussi, comme celles et ceux qui nous entourent, comme celles et ceux auprès de qui le Christ nous dit que nous sommes envoyés pour leur apporter la lumière. Et puis, toujours sur la lumière, nous le savons bien. Dans Jean chapitre 8, le Christ lui-même nous dit « Je suis la lumière du monde ». C'est lui qui vient mettre la lumière là où règnent les ténèbres. Si le Christ est la lumière, ça pose une question. Pourquoi nous serions-nous lumière ? Eh bien, simplement, je pense, parce que si nous sommes éclairés de sa lumière, c'est pour porter son reflet, pas le nôtre, à ceux qui nous entourent. Ce n'est pas pour conserver sa lumière sous le fameux boisseau égoïste dont nous a parlé le texte tout à l'heure. Mais c'est aussi parce qu'il nous transmet cette capacité et cette responsabilité. Après avoir apporté sa lumière aux disciples dans le monde, il leur dit « À vous maintenant, faites comme moi ». Et en préparant cette prédication, j'ai eu une petite lumière que je vais vous exposer. J'ai découvert, pas par la pratique, mais parce que je regarde de temps en temps la télévision, que le samedi soir, il y a des boîtes de ténèbres, des boîtes de nuit, si vous voulez. Et dans ces boîtes de nuit, en plein milieu, au plafond, est accrochée une boule à facettes. Ça s'appelle comme ça, je crois, une boule disco. Vous voyez ce que c'est ? Une grosse boule recouverte de petits miroirs. Et cette boule est éclairée par un projecteur ici. Et la lumière du projecteur, Jésus, va sur les petites facettes qui, toutes orientées systématiquement dans des directions différentes, qui, vraisemblablement, j'ai jamais vu, mais c'est comme ça, de couleurs différentes, voire même de formes différentes, lance un reflet de la lumière qui est là vers la foule qui est en train de faire ce qu'elle a à faire, ce qu'elle veut faire, dans la salle en question. Je reprendrai l'image à la fin. Et puis il y a le mot « monde ». Oui, frères et sœurs, c'est dans le monde que nous sommes, et pas ailleurs. Et quand bien même nous voudrions nous y échapper, nous sommes coincés. Selon notre conception personnelle, nous pouvons osciller entre pessimisme, rien ne marche, tout est pourri, et fuir le monde, ou optimisme, ça va changer, on y arrivera. Et alors nous investissons dans le monde. Je crois que le texte nous dit qu'il faut tenir une part de ces deux positions. Nous ne pouvons ni fuir, ni changer le monde. Notez bien que nulle part dans les Écritures, le Christ ne nous le demande. Mais nous avons seulement à y être lumière. Comment ne pas penser que si des chrétiens prenaient des responsabilités dans ce monde, dans la vie en société, dans le monde du travail, dans les associations, etc., etc., en un mot, comment ne pas penser que si on entendait et voyait plus de chrétiens s'engager en toute clarté sur ce qui se passe dans notre société, des choses peut-être pourraient changer, et que peut-être aussi certains auraient envie à leur tour de connaître et recevoir la lumière du Christ. Je reprends l'image de la boule à facettes. Elle envoie ses reflets sur la foule qui s'agite, crie, danse, gesticule pour oublier, pour se divertir, c'est-à-dire divertir, pour oublier la triste réalité de sa vie. Alors je vous propose deux conclusions sous forme de réflexion complémentaire. D'abord une réflexion à propos du sel et de l'affirmation gênante. Si le sel devient fade, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cette parole est dure à nos oreilles. Et pourtant, si l'Église et son message sont jetés dehors aujourd'hui, si l'Église et son message sont foulés aux pieds par les hommes, c'est peut-être simplement parce que nous sommes devenus fades. Réfléchissons. Deuxième réflexion. Vous vous en souvenez peut-être, dans la lecture que j'ai faite au début, il n'est pas sans importance que les quelques versets de ce jour suivent immédiatement ce qu'on appelle les béatitudes. Il y a un lien. C'est comme cela que nous devons briller. Alors, je vais relire le texte, pas complètement, je vais le lire de façon courte, de manière à ce que nous sachions peut-être ce que c'est que briller de la lumière du Christ. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui font œuvre de paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux sommes-nous lorsqu'on nous insulte, que l'on nous persécute et que l'on dit faussement contre nous toutes sortes de mal à cause du Christ. Amen.